La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Merci Saint-Esprit, tu me remplis de grâce, tu me revêts de ta présence, de ce vêtement de gloire. Saint-Esprit, merci parce que je crois que tu mets les mots de ma bouche. Aide-moi à dire ce que tu veux, qu'il soit dit ce que le Père veut. Car sans toi, rien ne peut être agréable au Père. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes là, pour plaire à Dieu. Apprends-nous à le faire. Apprends-moi à parler. Mais accorde la puissance, la grâce dans tout ce qui sera fait. Déjà, tu l'as fait depuis le début de ce moment. Tu as conduit notre adoration et nous sentons en nous-mêmes que nous avons fait monter une adoration qui a touché le cœur du Père, qui lui a été agréable. Saint-Esprit, enseigne-nous les voies du Père afin que nous le servions mieux. Au nom de Jésus, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, dis avec moi la prière. Champion de prière. Champion de prière. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit ceci à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Autrement dit, au champion, le Seigneur donnera ceci, le Seigneur donnera cela. Et déjà, la Bible déclare que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc, nous savons déjà que nous sommes plus que vainqueurs avant même d'avoir affronté la bataille. Et parce que nous le savons, nous nous équipons en conséquent pour pouvoir affronter, pour pouvoir triompher de toute forme d'adversité sur le cheminement de notre destinée. Et une des armes essentielles, prioritaires des champions que nous sommes, c'est la prière. Jésus-Christ est le champion par excellence. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, passait énormément de temps dans la prière. Or, s'il y a une personne qui ne devait pas prier sur la terre, c'est sûrement Jésus. Parce qu'il descendait directement de Dieu, il parlait directement avec Dieu. Donc s'il y avait une personne qui sûrement ne devait pas prier, on aurait dit c'est sûrement Jésus-Christ. Mais lui, le Seigneur, il passait beaucoup de temps dans la prière. Il se levait avant le lever du jour et il priait. Et dans les différentes leçons de la prière, nous avons expliqué combien de fois c'est nécessaire de nous lever avant le lever du jour. Et je veux poser la question, est-ce que vous arrivez à respecter cela? Qui est arrivé à respecter cela régulièrement? Peut-être que tu as joué un jour, mais quand même tu fais l'effort. Qui arrive à respecter ça? Ok. Même si vous avez raté un matin, ne baissez pas les bras. Lendemain encore, essayez. Il va arriver des soirs où pour une raison ou pour une autre, vous avez dormi tardivement. Mais vous devez le faire jusqu'à ce que ça devienne une coutume. Amen. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas le diable vous culpabiliser en disant, tu vois, ça ne marche pas pour toi. Ça fait une semaine, tu n'as pas pu te réveiller à 4h du matin, donc baisse les bras. Ne baisse jamais les bras. Tu dois persévérer jusqu'à ce que ça devienne une coutume. Lorsque tu reçois une parole, elle produit en toi de l'énergie et de la force. C'est une forme d'enthousiasme. Donc, les premiers jours de l'enseignement, tu auras la motivation de respecter ce que tu as entendu. Mais cette motivation ne va pas continuer dans le temps. Ça veut dire l'effet de la parole va finir. Tu dois toi-même t'auto-motiver. Amen. Une auto-motivation chronique. Il ne faut pas te dire, hey, moi la parole de Dieu ne dure pas en moi. C'est comme ça pour tout le monde. Lorsqu'elle agit, elle arrive, elle crée de l'émotion. Et puis après quoi, avec un moment donné, on sent cela baisser. Mais tu dois te rappeler la parole. C'est pourquoi tu dois réécouter. Quand tu sens ta vie de prière en train de baisser, tu réécoutes les enseignements qui ont motivé ta vie de prière. Elle va être restaurée. Et tu vas fonctionner de la sorte jusqu'à ce que ça devienne une coutume. Quand ça rentre dans les terres de la coutume, de l'habitude, on ne peut plus l'enlever. Vous savez, dernièrement, moi, je sors de l'islam. L'islam a ce principe. Pour apprendre aux gens à prier, quand la personne est enfant, on la tape, on la chicote. C'est-à-dire qu'on te discipline. Au départ, c'est très difficile pour un enfant de se lever à 4 heures. Et à un moment donné, ça devient une habitude, une coutume. Le musulman, quelle que soit l'heure, à 4 heures, avant le lever du soleil, il y a une horloge naturelle qui sonne dans sa tête. Pan, il se lève, il va faire sa prière. À 13 heures, vous êtes en pleine réunion comme ça. Excusez. C'est-à-dire de la même manière que les gens se lèvent. Quand vous êtes en réunion, vous vous levez. Si vous avez envie de faire, vous avez un besoin urgent. Allez faire pipi par exemple. Vous ne coupez pas la réunion pour dire excusez-moi, j'arrive.
Bon, la prière doit devenir comme ça. C'est-à-dire que vous êtes capable d'arrêter n'importe quelle réunion pour dire, excusez-moi, j'arrive. Parce que vous avez prévu entre midi et deux avoir 15 minutes de prière et de méditation. Et les gens sont en train, mais qu'est-ce que tu dois faire? On voit que tu es assis dans un coin du bureau ouvrant ta Bible pour lire 5 phrases parce que c'est devenu une coutume. Vous devez travailler jusqu'à ce que ça devienne ainsi. C'est comme ça qu'un homme comme Daniel est arrivé. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Le roi a pris un décret. Il n'a pas dit que le décret là est pour tout le temps. Il dit de telle période à telle période, vous n'adorerez que le roi seul. Et si vous n'avez même pas envie d'adorer le roi, ne faites rien. Mais Daniel, c'était une coutume. La Bible dit que, comme à son habitude, il priait 3 fois par jour. Et 3 fois par jour, il ouvrait les fenêtres. Donc c'était devenu un réflexe. Vous devez travailler sur vous-même jusqu'à ce que la prière soit un réflexe. Mais ne pensez pas que ça sera facile. Vous devez vous discipliner. Vous devez vous taper vous-même avec une propre chicotte. Bon, n'allez pas vous... ne devenez pas mazo, hein. Voilà. Hein? C'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez vous discipliner. Ne laissez pas vos envies vous contrôler. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais c'est la verge, la discipline qui va le faire. Le corps de l'homme, il a des envies bizarres. Si vous ne le disciplinez pas, il ne prendra pas le pli. La lecture de la parole de Dieu, vous ne devez pas lire la Bible quand vous avez envie. Vous devez travailler jusqu'à ce que ça devienne une coutume. Tu te lèves le matin, tu prends ta Bible, tu ouvres. Tes yeux veulent se fermer, tu leur dis, ouvre-toi. Tu dors sur ta Bible une fois. Le lendemain, tu te lèves encore. Tu travailles jusqu'à ce que ton corps s'habitue à le faire. Tu dois avoir environ un jour de jeûne par semaine. La première fois, tu vas avoir faim. Tu vas couper vers 13h. Ce n'est pas grave. Si tu as pris vendredi, vendredi encore, tu essaies. Tu vas le faire jusqu'à ce que ton corps comprenne que toi, tous les vendredis, tu jeûnes. De sorte que même si tu ne te souviens pas que c'est vendredi, vendredi, naturellement, tu n'as plus faim. Si vous vous soumettez au désir de votre corps, vous ne ferez rien. Parce que les choses comme la prière, la méditation, le jeûne doivent devenir des standards. Vous ne devez plus réfléchir pour les faire. Vous devez les faire naturellement. C'est ce qu'on appelle des coutumes. Venir à l'église le dimanche, c'est une coutume. Vous devez discipliner votre corps à ce que dimanche, vous êtes au culte. C'est le jour du Seigneur. Il n'y a pas à discuter. Quelqu'un va venir te demander, tu vas réfléchir. Si c'est dimanche, tu vas à la plage ou tu ne vas pas à la plage. Il n'y a pas la plage, mon frère. Dimanche matin, si tu veux faire la plage, tu fais ça samedi. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour de la plage. Tu as 7 jours dans la semaine. Ok? Pourquoi c'est le petit jour de Dieu? Lui, il a pris un seul. Là-bas, tu veux venir faire lutter Dieu avec la plage. Non, 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 non. Quelle est cette histoire? Il y a 7 jours dans la semaine. Tu prends les autres 6 jours. Tu fais tout ce que tu veux. Le seul jour du Seigneur. C'est là que tu veux mettre ça en comparaison avec les rendez-vous amicaux. Pourquoi tu ne mets pas en doute plutôt ton heure de travail pour aller à la plage? Pourquoi tu mets en ballottage l'heure de travail pour dire non aujourd'hui, patron, excuse-moi, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me détendre. Donc, mercredi matin, je ne vais pas au boulot, je vais me détendre à la plage. Mais c'est les heures du Seigneur. Pourquoi c'est les heures du Seigneur qui sont menacées? On ne menace pas nos horaires du boulot, on ne menace pas, je ne sais pas, mais c'est toujours l'heure de Dieu qui est en ballottage. Père, doit-on le faire ou doit-on le faire? Mais si nous respectons Dieu, si nous craignons Dieu, pourquoi c'est son heure qui est toujours en danger? Tes camarades vont venir te voir pour une bonne causerie. Tu peux, pour eux, tu peux sacrifier ton sommeil. On va sacrifier l'heure de la prière. Mais si c'est l'heure d'aller à l'école, si c'est l'heure d'étudier, si c'est l'heure d'aller au boulot, tu dis à tes camarades, je m'en vais au boulot. Et si nous n'appliquons pas cela, nous n'allons pas amener les païens à craindre Dieu. Parce qu'ils savent que nous, les chrétiens, ils savent que nous, allez leur demander d'aller dire ça à un musulman. Vous avez des camarades musulmans. Le monsieur, quand il dit va prier, là, est-ce que tu peux lui dire, il faut t'arrêter? Non, parce qu'ils ont fini par imprimer ce rite à toute la population. On est comme ça. Vous montez dans le car, on bloque le car. Personne ne va se plaindre. Parce que la coutume, quand vous respectez une coutume régulièrement, le monde entier commence à suivre avec vous. Le monsieur, il bloque son car, il fait sa prière. Toi-même, tu es dans la voiture, mais tu ne te plains même plus, tu es là. Et c'est comme ça. Et tu subis parce qu'ils nous vont imposer. Au début, les gens se plaignaient. Quand il y avait moins de musulmans, on se plaignait. Mais c'est quelles sont ces histoires-là? Quelles sont ces histoires? Mais après, nous tous, on a pris le pli. C'est normal qu'un monsieur coupe la réunion. Il dit, excusez-moi, je dois aller faire ma prière. Il coupe la réunion. Personne ne va se plaindre. Le directeur ne se plaindra pas. Il sait que c'est son heure de prière. Et pourquoi, pour nous les chrétiens, pourquoi nous, nos prières, les gens s'amusent avec ça? Pourquoi nous, on ne peut pas se lever au sein de midi et deux pour aller faire une prière? Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas des hommes comme David, comme Daniel. Il a fait comprendre au roi que lui, il prie 3 fois par jour. Le roi a fini par admettre ça. monde savait qu'il priait trois fois par jour. Et c'est parce qu'on ne serait qu'ils ont voulu le surprendre. Ma prière est que, au sortir de cette série d'enseignements, que vase d'honneur, que chaque personne qui entend cette parole ait une vie de prière régulière. Je dis, même si ce n'est pas beaucoup d'heures, garde un minimum de temps et respecte-le régulièrement. Même si tu as prévu 15 minutes là, ne travaille. Si tu as l'opportunité de faire plus, fais-le plus, fais-en plus. Mais recherche au moins ne serait-ce qu'à garder 15 minutes. Si tu arrives à conserver ça de manière régulière, c'est beaucoup plus efficace, n'est-ce pas, que de temps en temps de faire 3 heures et puis après, les autres, après tu ne pries même pas du tout. Amen. Prends ce que tu peux respecter. Même si tu dis, moi avant de dormir, je lis un verset. Frère, lis un verset. Même si tu as sommeil, lis un verset. Moi, ça fait partie de mes coutumes. Je ne vais pas dormir si je n'ai pas lu un verset. À un moment, j'avais commencé à laisser cette coutume-là. Parce que je partais, je dormais des gens, eux, ils ne faisaient pas ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils ne font pas ça, mais quand même, ils sont des bons chrétiens. Donc, moi-même, j'ai commencé à être négligent. Dieu me dit, petit, fais attention. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et ce sont ces choses-là que nous avons apprises depuis le début de cet enseignement sur la prière. Et je reviens là-dessus parce que je ne veux pas que vous vous relâchiez. Dieu ne veut pas que vous vous relâchiez. N'abandonnez pas. C'est dans ces moments d'intimité que Dieu va commencer à vous visiter. Parce que vous avez un rendez-vous fixe avec le Seigneur. Il sait à quelle heure vous trouvez. Il y a des moments où votre temps de prière sera inspiré. Il y a des fois où ça ne sera pas inspiré. Ce n'est pas grave. Il y a des moments où vous allez vous sentir très connecté. Il y a des moments où vous ne vous sentirez pas du tout connecté. Ce n'est pas grave. Maintenez quand même le moment. Alléluia. Ne déterminez pas votre temps de prière par rapport à votre connexion ou pas. Amen. Amen. Mais maintenant, faites l'effort que vos moments de prière soient profonds. Non seulement vous allez faire l'effort que ce soit une coutume, mais faites l'effort pour que ces moments de prière soient profonds. Et pour que ces moments de prière soient profonds, il faut maintenant respecter les procédures, l'évolution dont a parlé Jésus et que nous avons enseigné. Amen. Et nous sommes arrivés donc à la leçon 6, après avoir développé la coutume, après avoir expliqué qu'il faut prier en esprit. Nous avons expliqué ceci, que la prière véritable, la prière efficace, ne commence pas par les paroles que nous prononçons, commence à l'intérieur de nous, de par nos pensées. La Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit ceci, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Autrement dit, Dieu veut que ton cœur l'honore avant que tes lèvres ne parlent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre prière doit être profonde. C'est pourquoi nous avons enseigné dans les leçons précédentes, car il y a toute cette leçon, que lorsque je prie, je dois faire l'effort de ne pas prier au niveau du parvis. C'est-à-dire, le niveau du parvis, c'est, comment dirais-je, ce sont les prières que je fais dans la chair. Les prières distraites, les prières déconcentrées. Je dois faire l'effort, progresser, me sanctifier jusqu'à entrer dans mon être intérieur. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, lorsque tu pries, entre seul dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un endroit qui est extérieur, c'est plutôt une zone intérieure. Car dans le lieu secret, il n'y a pas de zone secrète que ton cœur. C'est pas ça? Donc, le lieu secret, ce n'est pas forcément ta chambre, parce que tu peux ne pas avoir de chambre. Amen. Oui, vous pouvez tous dormir au salon. Pas vrai? Alors, donc, oui, vous pouvez tous dormir au salon. Et tu n'as pas de lieu secret, tu n'as pas d'endroit secret. Il ne faut pas te plaindre. La vie est comme ça. Il y a des moments donnés, tu dors avec tous tes frères. Vous êtes tous là-bas. Tu dis, oh, à cause de ça, ma vie, je ne peux pas avoir de vie de prière. C'est une fausse excuse. Ce n'est pas une excuse. Même si vous êtes 3 milliards dans la chambre, tu peux prier. Parce que la prière, c'est dans le lieu secret. Et s'il y a trop de monde, lève-toi, sors de la maison, marche dans la rue et prie. Ne cherchez pas forcément une salle. Non, je n'ai pas d'endroit où me retirer. Bannissez de votre esprit ce genre d'excuses-là. Il n'y a personne. Tu sors à 3h du matin, 5h. Aucun voleur ne va t'agresser. Et si on t'a agressé, ce n'est pas grave. La vie est comme ça. Alléluia. Mais on ne t'agressera pas au nom de Jésus. C'est là que je vous ai raconté mon histoire où moi, je partais prier dans la forêt de Veillac, tranquillement. Voyant une jeune fille pour l'évangéliser, son copain passant par là, cru que j'avais passé la nuit avec sa copine, parce que la veille, elle n'avait pas dormi avec lui. Oh, moi, je partais faire ma prière vers 5h du matin, avec une natte dans la main, comme je partais mettre la natte sous la forêt des veillants pour prier. Mais le monsieur, lui aussi, quand même, est-ce qu'un homme se promène avec la natte de ses méfaits? Parce que plus tard, quand on est devenu ami, j'ai dit, ah, il dit, oui, mais moi, je ne sais pas que tu étais, parce que après, je l'ai évangélisé. Là. Il dit, mais je ne sais pas que tu étais un homme de Dieu, hein? Tu avais la natte, tout ça là. J'ai dit, mais tu as vu quel gars qui se promène avec la natte de...
de ses méfaits le matin. Oh. Pour ça, après, je l'ai cherché pour l'évangéliser. Il était surpris de voir l'amour que j'ai manifesté envers lui. En tout cas, à l'époque, il avait donné sa vie à Jésus. J'espère qu'il est demeuré dans la foi. Amen. Donc, nous sommes là donc, dans la progression de la prière. On a dit ceci. Lorsque donc Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites. Jésus n'était pas trop en train de, n'était pas en train de parler de ce que vous prononcez, mais il parlait de votre parole intérieure. Lorsque vous priez, voilà ce à quoi vous devez penser. Voilà ce que vous devez dire. Voilà comment votre prière doit être agencée. La preuve de cela, c'est que dans la Bible nous relate encore plusieurs autres moments de prière de Jésus ou des disciples, mais on ne les voit pas répéter littéralement la prière du Notre Père. Par contre, vous allez remarquer ceci, c'est que si vous regardez attentivement, leur prière à l'intérieur était basée sur les principes de cette fameuse prière du Notre Père. Donc, il n'est pas mauvais de la réciter, mais il est plus important de le faire à l'intérieur de soi, n'est-ce pas, de comprendre le principe. Donc, lorsque je prie, vous devez penser fortement que Dieu est votre papa. Amen. Vous devez le sentir. C'était la première étape de la prière, la première progression, notre Père. Deuxièmement, qui est aux cieux. Vous devez le penser à l'intérieur de vous, pas le dire simplement du bout des lèvres. Pensez que Dieu est au ciel, comme nous l'avons expliqué le mardi dernier, ça vous montre le lieu où Dieu réside. Et ça vous montre un Dieu au-dessus de tout. Quand vous avez cette perception claire, vous sentez que franchement, il est tellement grand que quels que soient les besoins que vous lui présentez, il est capable de les résoudre. Savoir voir Dieu dans le ciel vous donne la foi. Amen. Si vous ne pensez pas cela, si vous ne méditez pas cela dans vos moments de prière, vous allez prier de manière angoissée. Vous allez prier avec l'impression que Dieu est limité aux problèmes de ce monde. Vous allez prier pour voir que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a difficulté, vous aurez l'impression que Dieu aussi est dans la crise. Dieu n'est pas dans la crise. Quand vous arrivez dans un moment de prière, vos pensées ayant été polluées, entre guillemets, par les crises, par les méchancetés des hommes, par vous-même vos erreurs, vos pensées sont remplies de ces choses. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la prière, vous devez reméditer la grandeur de Dieu, la grandeur de votre Père, la grandeur de celui qui siège, et ça commence à laver vos pensées. L'angoisse va quitter votre cœur, les inquiétudes vont commencer à disparaître, et votre prière va commencer à devenir beaucoup plus sincère. Et quand vous commencez à confesser ces choses, c'est là que je vous ai décrit que spirituellement parlant, c'est comme si vous traversiez le parvis, pour revenir à l'image, et vous vous apprêtez progressivement donc à entrer dans le lieu saint, où vous serez à même de présenter à Dieu vos requêtes. Amen. Donc, qui est au ciel. Et puis, on a dit, le troisième point sur lequel on a fini, donc, mardi dernier, c'est que ton nom soit sanctifié. Amen. Et le dernier point que j'ai pas dit à ce propos, donc, c'est Matthieu chapitre 13, verset 57. Matthieu 13, 57. En tout cas, en ce qui concerne que ton nom soit sanctifié, j'ai dit, c'est dans votre pensée, toujours, dans votre pensée, avant d'être prononcé, ça traduit la façon dont vous considérez Dieu. Donc, la considération ou bien l'image ou la position que vous donnez à votre Créateur dans votre cœur. C'est ça la sanctification. Sanctifier littéralement dans la Bible, ça signifie, ça vient d'un mot hébreu qui signifie mettre à part quelque chose. Amen. Mettre à part quelque chose. Quand vous lisez donc ce passage que je viens de citer tantôt, Matthieu chapitre 13, verset 57, il est dit, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Donc, nous sommes dans une ville où les hommes connaissaient Jésus, mais ils le connaissaient comme un charpentier. Ils le connaissaient comme le fils de Joseph et de Marie. Et parce qu'ils voyaient cela seulement de Jésus, ils étaient empêchés de voir celui qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Mes amis, écoutez. Il ne s'agit pas simplement dans votre bouche de dire Jésus est Seigneur. Mais comment vous le voyez dans vos pensées? Je donne par exemple, pour vous comprendre, voyez le chef de l'État. Vous avez, pour connaître l'esprit de la révérence, Jésus va donner un exemple. Il dit, si tu vas devant le roi, est-ce que tu peux lui apporter une bête chétive? Je vous pose la question. Est-ce que tu peux apporter au roi une bête chétive? Le Seigneur donne cette parabole en cet exemple en disant, il dit, mais le roi là, ne va-t-il pas considérer que tu es en train de l'insulter? C'est pas ça? Hein? Tu viens dans ton cheptel, tu as de beaux animaux, et puis tu prends une bête, un œil cassé, un pied tordu, tu dis, mon roi, voilà mon offrande. Mais c'est perçu comme une injure. Pourquoi?
tout simplement parce que tu révères le roi. Et tu sais que ce n'est pas ton copain. Alors, Dieu dit, si vous le faites pour les hommes, est-ce quelle est la pensée que vous avez aussi pour moi quand vous vous approchez? Vous voyez? Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié, je vais dans la manière dont quelquefois on se tient quand on prie, c'est-à-dire avec vulgarité, quoi. Parce qu'on a fini par être tellement habitué à Dieu, tellement on est devenu familier, qu'on prend les choses avec beaucoup de banalité. Beaucoup de banalité. Donc, vous allez voir un chrétien, j'arrive ici, on est dans la présence du train d'adorer. Père, tu es grand. Le type, il est là. Bon. Manger un chien, c'est pas péché, hein. Mais est-ce que, sérieusement, la question que je me pose, si tu arrives devant le chef de l'État, est-ce que tu peux t'asseoir les pieds croisés? Et puis, pendant qu'il parle, ouais, monsieur le chef de l'État, oui. Tu vois? Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que le président et toi, vous êtes des amis. Vous êtes familiers. Tu vois? Bon. Et même encore là, si tu te tiens avec des personnes et qu'il est le Seigneur, tu as une attitude, c'est ça, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire ton nom là, tu es Dieu. Même si tu es mon père, tu es Dieu. Parce que même les enfants du chef de l'État, lorsqu'ils sont en présence, c'est leur, il y a un quoi, ils appellent papa. Mais lorsqu'on est en public, ou bien dans des circonstances, ils doivent savoir qu'ils ont affaire au chef de l'État. Vous imaginez le chef de l'État en train de faire un discours. Hein? Et puis sa femme, ou bien ses enfants viennent. Mais papa, papa, toi-même où tu es là? Tu ne m'as même pas payé. On dit, hé, c'est un sacrilège. C'est le chef de l'État. Alors, pour pouvoir juger souvent, est-ce que vous sanctifiez le nom du Seigneur? Il faut juger vos attitudes et non pas la manière dont vous, quand on rentre dans l'adoration, vous tremblez, vous pleurez. Oh, Père! Non, non, non. C'est dans l'attitude qu'on voit qu'on sanctifie le nom ou on ne sanctifie pas. C'est pourquoi j'ai dit, hein, j'ai cité tout à l'heure, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est dans le cœur qu'on voit la vérité. Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Alors quand je pense à ça, même si c'est mon père, j'arrive ici. Je peux me tenir dans la maison de Dieu, je cours à mes jambes, à l'église. Ça veut dire que soit je ne vois pas le Créateur, et que quand j'arrive comme ça, je croise mes pieds, et que je suis en plein temple, mes mains sont là, et puis je mange mon chewing-gum. Tiens, 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 comme ça. Ça veut dire, dans ma pensée, je ne vois même pas Dieu. Peut-être je vois des hommes. Donc comme c'est les hommes là, eux, je peux manger chewing-gum devant eux. Tu vois? Et cette attitude irrite le Seigneur. C'est ainsi qu'un homme qu'on appelle Uzza a été frappé de mort à cause de la négligence. Ananias et Saphira, leur péché, c'était la familiarité. C'est ce que j'appelle la familiarité. C'est-à-dire, tu finis par banaliser les choses de Dieu. Tu manges, on est dans la présence de Dieu, on arrive à l'église en train de prier. Tu prends ton chewing-gum sur les sièges de l'église. Tu finis puis tu colles hein, bah, ton chewing-gum. Tu vois, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Dis à un voisin, quand tu viens dans la présence de Dieu, un peu d'éducation. Il dit que quand tu viens, il dit, venez avec, devant mon nom avec crainte et révérence et respect. Et vous arrivez comme ça à l'église, on a commencé la prière, c'est là même d'autres vont venir. Rit dans le fond de la salle, saluer leur copain. Hé hey, mon gars! Puis dit ça en douceur, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps l'habitude de venir à l'église. Donc, à un moment donné, que Dieu soit là, Dieu soit pas là, ça devient banal. Quand tu arrives à ce niveau, toutes tes prières ne sont plus exaucées. La Bible dit, ce peuple-là, dans Matthieu chapitre 13, il dit, il voyait en Jésus leur copain. Le copain avec lequel ils avaient grandi, la Bible dit que dans cet endroit-là, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Donc, Jésus est Jésus, mais il ne fait pas de miracle dans la vie de ceux qui le prennent comme leur petit copain et qui banalisent et qui sont familiers. Et ça, la familiarité arrive, se produit très souvent dans la vie des anciens chrétiens. Les nouvelles personnes, lorsqu'elles arrivent, elles craignent Dieu. Mais vous les anciens, hier, tu es arrivé, personne n'est tombé quand il a péché, personne n'est mort. Donc,
la fin, bon. Oh, on exagère un peu, hein. Le pasteur qui parle, révélé Dieu, on exagère. Et maintenant, on devient léger. On arrive en plein culte, pendant qu'on parle du Seigneur. Et elle assise là-bas et puis il parle. Et les SMS. C'est le truc, tu crois. Puis il passe un truc. Frère, à la fin du culte. À la fin du culte. C'est un péché grave. Tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Et tu entraînes dans ta vie une forme de malédiction. Est-ce que, quand même, c'est ce qui a tué Uzza. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est cette attitude-là de manque de révérence qui fait que la présence de Dieu, la Bible dit, c'est loin. La Bible dit que, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, n'est-ce pas? Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Or, la sanctification, c'est révérer Dieu. Ça va de la révérence. Avoir de la révérence. Je suis en train de prier, dans un moment profond de prière. Il y a des moments où je peux parler simplement avec le Seigneur comme Père. Je suis dans un moment profond de prière. Les gens ne doivent pas venir te distraire comme ça. C'est un manque de révérence. Comment toi, quand on est sanctifié, toi tu rentres en prière, tu es en prière, tu es en prière. Ton portable sonne. Oui, allô? Dieu, tu dis Dieu. Attends. Oui. Quand tu rentres en prière, coupe ton portable. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, là. Ce n'est pas une prononciation. C'est ce que ça signifie. Tu parles avec qui? C'est ton petit copain? Donc, on est là en prière. Papa, c'est compliqué dans ce problème. Ma vie, la vie est compliquée. Maintenant, ton portable sonne. Même, tu ne l'as même pas éteint exprès. Tu as laissé là pour pouvoir. Parce qu'une urgence peut arriver. Ça veut dire que ton moment là n'est pas sérieux. Et ton portable allumé. Oh Dieu, rien de brodo saraba baba. Praie de gloria de brodoso. Le portable. Tino. Rien. Ouais. Ok. Ouais, j'arrive. Bon. Non. Oh, mais bon. Ok. Non, je suis en prière là. Dieu est là. Tu es en train de prier, tu lui as donné rendez-vous. Tu dis, Seigneur, viens. Le Seigneur est dans ta chambre. Vous êtes en train de parler. Dieu est là. En même temps, ouais, on dit quoi? Non. Oh, mais. Pourquoi? Parce que tu as fini par banaliser la présence de Dieu. Elle ne te dit plus rien. Alors, si cette présence ne te dit plus rien, le ciel se ferme. Parce que à qui tu parles? Un copain du quartier n'est pas capable de faire des prodiges dans ta vie. Or, quand tu auras l'impression de rencontrer le roi des rois, c'est ainsi que tu sais qu'il est capable de tout. Mais ton petit copain, pourquoi les gens n'avaient pas de miracle? Parce que ça démontre leur foi. Quand ils voyaient Jésus, ils voyaient un simple charpentier. Mais est-ce qu'un charpentier peut guérir les malades? Voilà. Donc, la façon dont tu regardes Jésus, c'est cette même façon que tu vas recevoir son intervention. Si tu prends ton portable et que tu parles comme ça, ça veut dire que tu imagines que c'est un petit copain du quartier. Franchement, est-ce qu'un petit copain peut décanter tes problèmes? Donc, Dieu, comme tu le prends comme petit camarade, il agit en petit camarade. Des petits miracles, il n'intervient pas en Dieu. Parce qu'un copain, il te dépanne. Un ami te dépanne. Donc, Dieu fait des dépannages. Où on a besoin de miracles sérieux. La Bible dit, Jésus est arrivé là-bas. Il a fait des petits miracles. Le passage de Matthieu 13. Pourquoi? Parce que les gens le voyaient petit. Il y a eu des guérisons. Mais ce n'était pas les grands miracles. À cause de la façon dont il voyait. Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié, c'est ce que vous avez comme résultat dans vos prières. Pendant que vous avez besoin que Dieu fasse un miracle, de vous donner un 10 millions, vous avez des quand vous prenez 10 millions, ce n'est pas exaucé. Parce que qui est là? Ton petit copain peut te donner 10 millions? Ton camarade de quartier? T'adresses-tu à qui? Au roi de rois? Au chef de l'État? Au Dieu Tout-Puissant? Ou un ami? Alors, quand tu t'adresses à un copain, il te dépanne. C'est quand tu pries pour les petits montants, genre, Seigneur, donne-moi 10 000 francs. C'est là qu'il y a un miracle qui arrive, 10 000 francs. Mais 10 000 francs ne règle pas, quelquefois, les situations sérieuses où tu as besoin que Dieu intervienne dans sa dimension royale. Alléluia.
Veux-tu qu'il intervienne dans sa dimension amicale, camarade de quartier, ou dans sa dimension royale? Voilà. Donc quand tu t'approches comme ça, considère le roi. Que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc dorénavant, dès qu'on rentre en prière, dès qu'on rentre dans les temples ici, tout le monde ferme son portable. Toi-même, quand tu entres en prière, ferme ton portable. Dis aux personnes dans la maison de ne pas te déranger. Et pour ne même pas quand tu te déranges, va loin. Parce que tu as un rendez-vous avec le Dieu créateur. C'est là vous discutez de l'avenir. C'est là vous parlez. C'est là tu lui parles de tes projets, de tes souffrances, de ce que tu ne comprends pas. C'est là tu lui parles. Tu ne peux pas t'asseoir avec lui pendant que tu es en train d'expliquer des problèmes sérieux. Ton enfant est malade et puis en même temps ton portable à côté. Mais il te dit que tu te fous de lui. Tu veux que Dieu intervienne pour faire un miracle, pour guérir ton mari, pour faire des prodiges, pour agir en tant qu'un grand Dieu. Mais tu ne sanctifies pas son nom. Dis avec moi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Que cela soit notre attitude dans toutes choses à face d'honneur. À message de vie. Que Dieu nous pardonne nos fautes de familiarité. Car même ici, nous avons péché. Moi-même, nous avons péché contre Dieu. On a cru que simplement arriver au culte, hein, c'est un peu comme si la star, même quand tu vas venir au culte, avec le pasteur. C'est pas le pasteur. C'est un manque de crainte de l'Éternel. Lorsqu'on se met droit parce que le pasteur est arrivé, on est tellement rire. Oh! Dès que le pasteur Sanogo arrive, on se redresse. C'est de l'hypocrisie devant Dieu. Parce que qui honorez-vous? Un homme ou lui le Créateur? Si vous m'honorez et vous ne le voyez pas Dieu, faites attention, hein? Parce qu'un jour Dieu va me régler. Oh. Donc laissez-moi vivre. J'ai encore une mission à faire. Non, c'est pas cool, toi Dieu va me tuer quand même. Révérons Dieu. Ayons de la révérence pour Dieu. Lorsque je fais le travail de Dieu, ce n'est pas parce que mon responsable est présent ou qu'il soit là absent. Quand il est présent, je manifeste du zèle. Quand il est absent, je suis un peu léger. Je fais les choses comme je l'entends. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Mais il est plutôt en train de sanctifier le nom de son responsable, le nom du pasteur Sanogo. C'est pas que mon nom, Mohamed Sanogo, là, soit sanctifié. C'est que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Et c'est parce que tu sanctifies ce nom et que tu sais que c'est ce Dieu-là qui m'a établi. C'est ce qui fait que tu as de la conscience, tu me respectes à cause de Dieu. Mais si tu me respectes et le Seigneur là, tu ne respectes pas, mais qu'est-ce que tu ne me respectes pas, tu es en train de me détruire. C'est autre chose. Car je n'aurais pas parlé, je n'aurais pas cette grâce. Si lui, dans sa miséricorde divine, il ne m'avait pas appelé, il ne m'avait pas choisi. Alléluia. Mais comme lui, on est avec lui 24 heures sur 24, on a fini par banaliser sa présence et maintenant à mettre en considération les hommes. Répentons-nous de cette forme de péché. Car c'est pourquoi le ciel s'est fermé sur nos vies. C'est pourquoi nous ne sommes plus exaucés quand nous prions. On regarde en nous, on cherche l'iniquité, on ne le trouve pas. Tu ne vois pas l'impudicité, tu ne vois pas le mensonge. Mais ton problème, c'est que ton péché, c'est le manque de révérence de Dieu. Tu es coincé dans tes exaucements parce que tu as pris Dieu, tu as banalisé la présence de Dieu, tu as banalisé Dieu. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne commets pas adultère, mais tu n'es pas exaucé. Parce que tu as tout simplement banalisé la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Après cela, que ton règne vienne. Donc, notre Père Céleste aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, je l'ai dit tout à l'heure en introduisant mon message. Je ne vais donc pas m'attarder longuement sur cet aspect. Tout simplement, ce que je peux dire, c'est que Dieu veut que nous prions pour que, je vais le dire tout à l'heure avec sa volonté soit faite, mais pour qu'on voit son royaume. Cela doit nous interpeller. Amen. Mais permettez même avant de toucher les points 4 et 5, de toucher l'évolution de la prière, si je veux aller au point 6 pour qu'on me comprenne mieux. Il a dit donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et après qu'il lui dit cela, que le Seigneur dise cette parole, donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Il va continuer à prier en disant, bon, par exemple, donne-nous notre pain quotidien. Je veux que vous remarquiez, ça c'est le sixième point de la progression de la prière selon le Notre Père. Je veux que vous remarquiez ceci, c'est que le Seigneur, la prière commence par le ciel, elle arrive sur la terre avant d'arriver à toi qui expose tes besoins. Donc, notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Et puis après, maintenant, donne-nous notre pain quotidien. Donc, ce qui me concerne vient après la terre. Et la terre vient après le ciel. La prière efficace dans sa progression, si je veux prier efficacement, lorsque j'entends prière, je ne commence pas par prier pour mes sujets. Je ne commence pas par exposer mes besoins. Je prie d'abord pour les sujets généraux qui concernent les intérêts du ciel, les intérêts de Dieu sur la terre dans son ensemble, avant d'exposer mes intérêts à moi. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il montre dans la progression de la prière et c'est très important. Jérémie 29, verset 7 dit ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, le Seigneur dit que ton bonheur individuellement, Jérémie 29, verset 7, ton bonheur dépend du bonheur de la ville dans laquelle tu es. Je vais plus loin. Ta destinée est rattachée à la destinée du groupe. Si tu veux connaître la vraie volonté de Dieu pour toi, il faut que tu aies d'abord une volonté, que tu aies une vision globale avant d'avoir la vision individuelle. Sinon, ta prière ne sera pas juste. Malgré le fait que tu sois une individualité, tu te trouves au milieu d'un peuple. Tu te trouves dans une ville. Lorsqu'il pleut, il ne pleut pas sur toi, c'est dans ta maison. Donc, quand tu invoques la pluie, tu ne penses pas à toi, tu penses d'abord à tout le monde qui va recevoir. Et toi aussi, tu en profites. Alléluia. Maintenant, dans la pluie qui vient, toi maintenant, tu vas faire ta propre plantation. Quelqu'un me suit-il? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi encore il dit dans le livre de Timothée, il dit, lorsque vous priez, avant toute chose, on va lire ce passage, c'est 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 3, il est dit, un peu plus haut même, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Donc, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 dit que pour que toi tu vives une vie paisible en toute honnêteté, il faut que les rois, les dignitaires, les autorités elles-mêmes vivent cette paix. Si je veux prier pour mon épanouissement personnel, prie pour l'épanouissement du pays d'abord. Est-ce que vous me suivez? Parce que ton bonheur dépend du bonheur de la ville dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel veut te faire progresser, il fait progresser aussi un ensemble. Tu ne vas pas arriver toi sur le sommet. Si tu arrives sur le sommet, tu deviens trop facilement atteignable par le diable. Et toi, tu es en haut. Tout le monde doit monter, mon frère. C'est-à-dire, tu montes, tu es un peu devant, mais tu as dit, parce que si tu t'isoles, ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Donc, quand j'entre en prière, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je prie pour la nation. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Prie pour la Côte d'Ivoire, moi je prie pour toi. Tu vas être là. Oh Dieu, mon Dieu. Je veux du travail. Je veux manger. Pourvoir. La galère a frappé toute la Côte d'Ivoire. Mais ton cas, tu es en Côte d'Ivoire, mon frère. Donc lorsque je commence à prier, je ne prie pas, je veux manger. Père, souviens-toi de la Côte d'Ivoire.
pourvoir ses besoins. Regarde, Seigneur Dieu, tous les prix, les denrées sont en train de monter. Je t'en prie, étends ta main afin que cela puisse gagner. Amène les personnes à avoir du boulot. Ouvre les portes du travail, Seigneur Dieu, pour la population. Étends réellement ta main afin qu'il y ait des offres. Tu parles ainsi avant de dire, Seigneur, je vais travailler. Amen, amen. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de prier pour leur mariage. Mais le problème est général, ma soeur. Le problème est général. Le problème est général. La généralité, c'est que, en ce moment-là, dans nos églises, il y a plus de sœurs que de frères. De un. De deux, la situation matérielle et financière fait que la plupart des frères ne travaillent pas. Donc, tu ne vas pas aller t'engager. Comment dire, avec quelqu'un qui est en train de construire son avenir encore. Donc, c'est sûr que, même si tu as une vision, en tout cas, la probabilité des visions de mariage est fortement réduite. Plus il y a de chômeurs. Plus les frères. Si on avait davantage de frères qui travaillaient, on aurait eu davantage de direction et davantage de mariages. Mes amis, ce sont des statistiques très simples. Pas d'abord trop spiritualiser l'affaire. Elle est simple. Elle est simple à comprendre. Alléluia. Voilà. Donc, ce qui fait que pour qu'une personne trouve un homme et se marie, elle doit fournir beaucoup plus d'efforts. Parce qu'il y a moins de personnes. Donc, prie pour l'ensemble. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs. Je prie. Voilà. Et puis avant d'arriver, donc, tu as fini de dire que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, tu parles pour cela d'abord. Et puis après, maintenant, toi-même, tu arrives, donne-moi mon pain quotidien. C'est-à-dire, donne-moi mon mari. Donc, tu ne dis pas, donne-moi mon mari avant d'avoir demandé sa volonté sur la terre. Quelqu'un me suit? Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, quand vous entrez en prière, bon, là, je dis pour des sujets simples, mais quand vous entrez en prière, ce qui importe d'abord, la priorité, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est au-dessus. Amen. C'est le plan principal de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je reviens aux autres points. Donc, on a vu que ton règne vienne. Ce que j'ai dit, ça veut dire qu'on doit rechercher que Dieu, quand je rentre en prière, prier. Dans un premier temps, pour que la parole de Dieu soit répandue dans toute la nation. C'est un sujet prioritaire. Que ton règne vienne. Que les hommes craignent Dieu. Je dis banalement, quand je parlais des priorités, dis-moi, j'enseigne là-dessus. Banalement, on a beaucoup de problèmes dans les couples. Beaucoup de femmes trompent leur mari, les maris trompent leurs femmes. Parce que les gens ne sont pas convertis. Parce que le règne de Dieu n'est pas manifesté. Le règne de Dieu n'est pas manifesté dans ta vie. Le règne de Dieu n'est pas manifesté dans la vie des personnes. Et le règne de Dieu ne se manifestera pas si tu ne pries pas pour qu'il vienne. Que ton règne vienne. Et tous les jours, nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Que le Seigneur commence à régner dans les cœurs. Qu'il change les vies. Que, donc tu pries pour tout Abidjan. Tu pries pour la Côte d'Ivoire. Tu pries pour le monde. Tu pries d'abord pour le monde. Tu pries pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, fasse venir ton règne ici en Côte d'Ivoire. Étends réellement ta main. Amène les âmes à la conversion. Tout sauve des personnes, Seigneur. Que ton règne vienne dans les cœurs. Que ceux qui ne te craignent pas te craignent. Je t'en supplie, mon Dieu. Ça, ça doit être d'abord ton centre d'intérêt. Que ton règne vienne. Si ça ne t'inquiète pas, et que tu commences par, donne-moi mon pain quotidien, ton pain quotidien qui est le mariage, qui est l'enfant. Mais même le mari, si Dieu t'en donne, est-ce que la probabilité pour qu'il soit réellement né de nouveau là est très faible? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église, mais il y a beaucoup de païens dedans. Et vous allez me dire, non, les gens n'entendent pas la parole de Dieu pour se convertir. Mais les gens ne se convertent, les hommes ne se convertissent pas si on ne prie pas pour que le règne de Dieu vienne. La réelle conversion commence lorsqu'on prie pour qu'il y ait le règne de Dieu. Il faut invoquer le règne de Dieu à vase d'honneur. C'est ta communauté, c'est là où tu es. Il ne faut pas vous asseoir les dimanches et puis constater qu'il y en a qui vivent mal. C'est pas, on ne constate pas, mon frère. On prie pour que ça change. La prière, ce n'est pas une formalité.
Tant que les hommes ne se soumettront pas à Dieu, au règne de Dieu, il sera difficile d'avancer. Alléluia. Parce que ton bonheur dépend du bonheur de la ville, de l'église dans laquelle tu te trouves. Amen, amen, amen. Amen. Donc lorsque tu pries, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est toujours dans la même veine. Que ta volonté soit faite. La dernière fois, je le disais aussi, c'est une erreur de croire que Dieu, ce qu'il a décidé de faire, Dieu le fait systématiquement. Non. Nous devons demander que son plan s'accomplisse. Si tu ne pries pas pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il ne se réalisera pas. Voyons quelques passages rapidement qui en parlent. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2, il est dit, « La première année du règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel lisait les livres de la parole et il a vu qu'une prophétie, qui disait, voilà le plan de Dieu. Dans 70 ans, Israël sera délivré et va retourner dans son territoire. Et Daniel a constaté que les 70 étaient arrivés. Il ne s'est pas assis pour attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a activé le plan de Dieu par la prière. Il dit, quand j'ai lu la volonté de Dieu, j'ai commencé à prier pour qu'elle arrive. Je vais rappeler ceci. Daniel était quelqu'un qui avait une autosuffisance, qui était quelqu'un de bien dans la vie. Il était bien. Mais il a prié pour l'ensemble du peuple, car il sait que lui-même, son bonheur, dépend aussi du peuple. Alléluia. Alléluia. Tu dois intercéder pour que la volonté de Dieu soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai établis. » Des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. En ce moment-là, on entend, et même l'esprit nous montre que il risque d'avoir de très grandes violences dans ce pays. Mais vraiment horribles. Les violences qu'on voit, que les prophètes annoncent, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est les conséquences des pensées et du péché des hommes. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vous annonce, quand Dieu dit... Si tu laisses les moustiques te piquer, tu vas voir le palud. Dieu te dit, la prophétie là, il t'annonce les conséquences des actes. Il dit, voilà ce qui va t'arriver. Il va t'arriver telle maladie à cause des actes que tu as posés. Mais ce n'est pas son plan initial. Quand vous lisez, on va lire Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel 22, bon, on va commencer au verset 27. Ben, vous pouvez lire pratiquement depuis le verset 17. Il est dit, ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapimes, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Verset 31, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est un passage par lequel, pour moi en tout cas, à lequel Dieu m'a beaucoup édifié. Il dit ceci. Je cherche, verset 30, parmi eux un homme qui élève un mur, qui intercède, pour ne pas que moi, Dieu, je détruise le pays. Mais je n'en trouve point. Donc, ce n'est jamais l'intention de Dieu qu'un malheur arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais, selon ce que Ézéchiel 22, 30 dit, si personne ne prie, le malheur va arriver. Parce que le péché dans ce pays et dans le peuple est grand. Et le péché entraîne la mort. Dieu avait l'intention de détruire Sodome et Gomorre. Mais quand il partait frapper Sodome et Gomorre, Noé même qui se trouvait, Lot qui se trouvait à Sodome et Gomorre, il serait mort. Quand le malheur va frapper la ville,
Quand les gens, si les gens commencent à tirer ici, ça ne va pas nous épargner. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, quand vous priez pour vous, prenez d'abord le temps de voir ce que Dieu fait dans l'ensemble, avant de regarder votre problème personnel. Alléluia. Avant de parler à notre pain quotidien. Et donc, pour revenir à cela, donc, Dieu dit ceci, ce peuple s'apprête à être détruit, mais priez afin qu'il soit sauvé. Sodome s'apprêtait à être détruite. Quand l'Éternel est descendu, il a simplement annoncé à Abraham, je m'en vais détruire Sodome. Maintenant, Abraham a commencé à plaider. Mais si tu trouves là-bas un certain homme de juste, si tu trouves un certain homme de juste, et l'Éternel a failli changer d'avis. Malheureusement pour Abraham, Abraham s'était arrêté à 10 justes. Or, il n'y avait même pas 10 justes à Sodome et Gomorre. C'est pourquoi le peuple a été détruit. Pas parce qu'ils étaient un peuple saint. Ils étaient un peuple pécheur. Mais si Dieu avait trouvé ne serait-ce que 10 justes, même à ces pécheurs, Dieu aurait pardonné. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Quand vous priez, s'il vous plaît, ne vous voyez pas comme le centre de l'humanité. Et que l'Éternel existe pour vous seul. C'est une erreur. C'est une mauvaise manière d'aborder la prière. Amen, amen. Allez, quand tu arrives devant Dieu là, Seigneur, aime-moi mon travail. Hein? Aime-moi mon travail. Depuis là, je ne travaille pas. Voilà, je te sers dans l'église. J'ai balayé le temple. J'ai balayé. Depuis là, je ne travaille pas. Tu ne travailles pas parce que tu pries mal. Tu penses que la terre s'arrête à toi. Commence à dire, Père, ce pays, on ne travaille pas. Les jeunes finissent, ils ont des diplômes, ils ne sont pas embauchés. Mon Dieu, étends ta main bienveillante et brise ces situations. Empêche que cela arrive. Favorise le travail. Permet aux gens de sortir de la pauvreté. C'est ça la volonté de Dieu. Les projets que Dieu a sont des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu ne souhaite pas que le malheur arrive. Mais le malheur peut arriver s'il n'y a personne qui prie. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, ça ne veut pas dire... souvent lorsqu'on lit cela, on a l'impression que ça signifie seulement même s'il y a une autre volonté, même si j'ai ma volonté, il ne faut pas que ma volonté se fasse. Hein, c'est pour toi je veux. C'est ce que ça signifie, c'est vrai. Mais ça signifie aussi que ton plan s'accomplisse. Quel est ton plan? C'est un plan de paix. C'est un plan de joie. C'est un plan de bonheur. Intercédons pour qu'il en soit ainsi. Et je vous avais donné ce sujet-là la dernière fois, d'intercéder. Prenez vos temps de prière réguliers que je vous ai donné comme conseil pour intercéder pour la volonté de Dieu, pour que le pays soit en paix, pour que ce pays-là soit prospère, pour que les âmes soient sauvées. Priez pour que les églises connaissent un réveil spirituel, que l'iniquité s'éloigne de la maison de Dieu, que la sainteté fasse partie de la maison de Dieu. Intercédez pour ça d'abord. Si vous agissez de la sorte, vous allez voir que Dieu va se souvenir de vos sujets. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc je termine avec ce passage que je viens de lire tantôt. J'exhorte donc, 1 Timothée 2.1, avant toute chose, dis avec moi, avant toute chose, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Et verset 4 va dire, qui veut que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Ce passage dit, si tu ne pries pas pour d'abord, il dit avant toute chose, ça veut dire d'abord. Si tu ne pries pas d'abord pour les autorités, pour tous les hommes, toi-même, tu ne pourras pas mener une vie paisible et tranquille. Donc quand j'entre en prière, je ne commence pas par... Parce que avant toute chose, c'est de prier d'abord pour les autorités, pour tous les hommes, avant d'exposer mes besoins. Et après, il dit, si tu agis ainsi, tu vas pouvoir mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Quand l'iniquité remplit le monde, même l'Église a des difficultés pour marcher dans la sainteté. N'est-ce pas? Lorsque dans la nation, pour avoir un travail, pour rentrer à l'école, il faut payer, il faut être corrompu, ça devient aussi compliqué pour les chrétiens. Priez pour l'école. Priez
pour l'administration. Priez pour les ministres. Priez pour qu'ils soient honnêtes. Priez pour qu'il y ait honnêteté. Priez pour cela avant de prier pour votre travail. Avant de prier pour votre emploi. Priez pour l'honnêteté dans la nation. Avant d'exposer votre besoin. C'est ainsi que votre prière sera efficace. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut acclamer le Seigneur. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Ce soir, le Seigneur t'a parlé de sa gloire. Il t'a parlé de sa sainteté. Il t'a parlé de la révérence avec laquelle tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Nous allons prier l'Éternel Dieu afin que Dieu nous pardonne tout esprit de légèreté, toute attitude de légèreté que nous avons eue dans sa présence et que Dieu nous révèle de la sainteté afin que son nom soit sanctifié. Le Seigneur nous a dit aussi que lorsque nous prions, ne nous mettons pas au centre, que la prière commence du global avant d'arriver à l'individuel, car l'individu se trouve dans un groupe. Si tu veux que ta prière soit efficace, commence d'abord pour prier pour l'ensemble. Commence d'abord, avant toute chose, à prier pour les intérêts du royaume de Dieu, pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans les nations, dans l'administration, dans l'église, dans toutes ces choses, afin que toi-même, afin que nous tous, nous puissions avoir une vie honnête et paisible, car c'est cela la volonté de Dieu. Prions l'Éternel d'abord pour la révérence. Parlons à Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous tenons ce soir devant ta face. Ce soir, décidons réellement de révérer notre Seigneur et notre Dieu en toutes circonstances et chaque fois que nous nous approchons de lui. Ayons la révérence, ayons de la considération, ayons du respect. Ô Seigneur Dieu, bâtis en nous ces choses. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que j'ai manqué, Seigneur, de sanctifier ton nom, que j'ai manqué, Seigneur Dieu, de prendre ton nom avec respect, révérence et considération. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, chaque fois que j'ai agi avec légèreté à cause de l'esprit de la familiarité. Pardonne-moi lorsque le nombre d'années même que j'ai passé dans l'église ont été pour moi un piège au lieu de mettre en moi une attitude de crainte de ton nom. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, cette attitude, ô Père. Sanctifie mon âme, purifie-moi et que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Dieu, dans cette communauté, dans cette église, Éternel Dieu. Donne-nous en toutes choses de révérer ton nom, ta sainteté et ta gloire, de marcher avec crainte et respect. Sois glorifié, sois exalté pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à prier pour le groupe avant de prier pour l'individu. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre ce principe important de la prière efficace. Apprends-nous à penser à l'intérêt général avant de penser, Seigneur Dieu, à notre intérêt particulier. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à intercéder de manière générale, Seigneur, avant d'apporter devant toi nos besoins. Merci, Seigneur, parce que tu nous éduques dans une vie de prière efficace pour la gloire de ton nom, au nom puissant.
Les yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux t'ont vu, Seigneur, assis sur ton trône. Tu règnes, Seigneur, sur ton trône, mon Dieu. Tes yeux, Seigneur, te voient. Dieu, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau de Dieu, assis sur le trône de gloire. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Encore une dernière fois, il règne pour toujours. Seigneur, tu règnes pour toujours. Oh, alléluia, tu règnes pour toujours. Est-ce que nous pouvons acclamer sa majesté, notre Dieu qui est le roi des rois, qui règne pour toujours, 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 qui règne pour toujours,
qui règne.
Alléluia. formidable. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom. Et c'est un peuple d'adorateurs qui se tient là ce soir devant toi pour dire que tu es grand, que tu es Dieu, que tu règnes. Tu es excellent, extraordinaire, Seigneur, et nous t'aimons. Agrée l'offrande de notre adoration cette nuit. Agrée, Seigneur Dieu, l'offrande de notre adoration. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.